Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. L'homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, dit avoir écarté le président et le premier ministre de transition dans ce qui s'apparente à un deuxième putsch en 9 mois, suscitant une vaste réprobation internationale et la menace de premières sanctions. Il a autorisé, selon une source, le médiateur ouest-africain Jonathan, Goodluck Jonathan, à rencontrer aujourd'hui les deux leaders arrêtés. Et puis, le principal syndicat malien a annoncé suspendre la grève lancée cette semaine pour ne pas aggraver la crise politique actuelle. Nous y reviendrons plus en détail avec Michel Joseph, notre correspondant Mohamed Danioko et Modibo Dambélé. Au Burkina Faso voisin, au moins 15 terroristes ont été neutralisés, c'est-à-dire tués, lors d'une opération anti-djihadiste menée le 18 mai dans le nord du pays, a affirmé hier dans un communiqué l'état-major des armées burkinabées qui déplore un blessé parmi ses soldats. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a vécu hier dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, dominant la ville et où de longues fissures ont fracturé le sol secoué par de violents séismes à répétition. Nous y reviendrons avec Eddie Isango. La justice sénégalaise a condamné hier à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, Lamine Gueye, un marin pêcheur accusé d'avoir participé à un transport clandestin de migrants vers l'Europe, au cours duquel un jeune adolescent avait perdu la vie. La mort en octobre dernier de Doudou, un apprenti footballeur de 15 ans qui rêvait de poursuivre sa formation en Europe, avait ému le Sénégal, alors confronté à une nouvelle vague de départ vers l'archipel espagnol des Canaries. Il existe un risque sérieux de famine si l'aide n'est pas augmentée ces 2 prochains mois au Tigré en Éthiopie, a averti un haut responsable de l'ONU dans une note mardi au Conseil de sécurité obtenue par l'AFP en réclamant des mesures urgentes. D'autre part, Amnesty International et des témoins ont dit hier à l'AFP que des soldats éthiopiens et érythréens ont frappé et arrêté hier, lundi plus tôt, environ 200 civils déplacés lors d'un violent raid nocturne dans des camps du Tigré où la guerre dure depuis plus de 6 mois. Après des années de divorce sous l'ère Trump, les États-Unis veulent reconstruire leurs relations avec les Palestiniens en rouvrant un consulat à Jérusalem et en accordant des millions de dollars d'aide à la bande de Gaza ravagée par la guerre, et ce, tout en reconnaissant le droit d'Israël de se défendre, a plaidé hier le secrétaire d'État Anthony Blinken à l'issue d'entretiens avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a aussi déclaré que des États israéliens et palestiniens vivant côte à côte étaient la seule façon d'avancer. Monsieur Blinken a également au programme l'Égypte et la Jordanie. Environ 0,01% des personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 entre janvier et avril ont ensuite été infectées par le virus, selon une étude du gouvernement américain publiée mardi, confirmant la très grande efficacité des vaccins. Des cas rares de contamination étaient attendus, en particulier avant que l'immunité de la population n'atteigne un niveau suffisant pour réduire davantage la transmission, expliquent dans un rapport les centres américains de lutte et de prévention des maladies. La société américaine Moderna annonce par ailleurs que son vaccin contre le COVID-19 était hautement efficace chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats complets d'essais cliniques. Et selon l'OMS, le variant indien du COVID-19 a été détecté dans au moins 53 territoires. À New York, un grand jury a été constitué pour déterminer si le dossier du procureur de Manhattan sur l'ex-président Donald Trump et son groupe peut justifier la tenue d'un procès, rapportent mardi plusieurs médias américains. Pas de commentaire du bureau du procureur Cyrus Vance. La suite de nos informations. Retour sur le Mali, où le colonel Assimi Goïta a indiqué hier avoir écarté le président et le premier ministre de transition dans ce qui s'apparente à un deuxième putsch en 9 mois. Une vaste réprobation internationale a suivi avec des menaces de sanctions. Le point avec Michel Joseph.
Le président français Emmanuel Macron a parlé de coup d'État inacceptable. Les dirigeants de l'Union européenne sont prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a affirmé M. Macron à l'issue d'un sommet européen. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union africaine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont aussi condamné ce dernier développement au Mali. Les appels à la libération immédiate des personnes arrêtées et à un retour à la transition politique devant ramener les civils au pouvoir se sont succédés de la part de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, de la CDAO, la communauté des États ouest africains, qui a dépêché sur place Goodluck Jonathan. L'ancien président du Nigeria est arrivé hier à Bamako, seulement quelques jours après une autre visite où il avait rencontré toute la classe politique malienne.
Pour une analyse de cette nouvelle crise qui agite le sommet de l'État malien, Modibo Dambélé a joint le docteur Aboubakar Sidiki Fomba, acteur politique et membre du CNT, l'organe parlementaire de la transition.
En tant que président du parti, j'ai demandé à faire partir ce premier ministre depuis le 2 février. J'ai demandé la mise en place d'un gouvernement inclusif avec un premier ministre d'envergure. Ce premier ministre déchu n'était pas à la hauteur pour vraiment résoudre les questions auxquelles le pays était confronté. Quand les Maliens ont dit, surtout le M5, disaient que c'était du IDK, sans IDK, ça veut dire que rien n'a changé. Et c'était vraiment prévisible que cette situation arrive, sauf que tu n'avais pas compris ce qui se passe réellement au sommet de l'État et dans la question de l'État.
Où va le Mali avec ce rythme immodéré de coup d'État lorsqu'on sait que les djihadistes sont dans les Sahel?
On a mis de l'ordre dans les choses. Et face aux djihadistes, on ne peut pas vaincre les djihadistes quand on est dans une mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance même est source d'insécurité. Mais il faudrait lutter contre cette mauvaise gouvernance, contre l'injustice sur place. C'est une opportunité aujourd'hui pour que ceux-là qui sont écartés se détruisent pour se donner la main. Tout le monde savait que ça n'allait pas. Il faut lutter contre l'injustice sur place. Il faudrait que les Maliens se mettent ensemble. Aujourd'hui, est-ce que les Maliens étant divisés peuvent faire face aux djihadistes? Je crois que la solution à ce djihadisme aussi est d'aller vers cette situation d'inclusivité pour que les Maliens se donnent la main et faire un nouveau départ.
Que peut faire la CDAO lorsqu'on sait qu'elle a toléré la même chose au Tchad?
C'est une question de jurisprudence, mais dans tous les cas, je l'ai tout le temps dit, ni la CDAO ni la MINUSMA ne peut pas faire du Mali à la place des Maliens. Et ils nous accompagnent, c'est vrai, mais aujourd'hui, la CDAO ne peut qu'accompagner le Mali dans cette situation pour ne pas amener d'autres situations. Les élections vont se faire en 2022. Comme ça a été dit, on va essayer de se et qu'il accompagne le Mali pour qu'on puisse quand même mettre en place un nouveau gouvernement qui va prendre en compte la crise sociale, nous aider à continuer à organiser des élections et même aller vers une nouvelle constitution comme ça a été dit, lutter contre l'insécurité. Ils peuvent que de nous accompagner, mais on n'a pas besoin de mettre les bâtons dans les roues. Et je le dis, je le maintiens, les Maliens sont responsables du Mali et ils feront du Mali ce qu'ils veulent.
Quelle est la marge de manœuvre du colonel Goïta pour faire la paix avec le M5-RFP, la classe politique et les syndicats?
C'est aujourd'hui que c'est une grande opportunité car le colonel Goïta, et il a montré la bonne foi, le M5-RFP a été demandé, surtout dans le communiqué, il a été mentionné que le gouvernement en place n'a pas pu trouver la solution à la crise sociale du BNTM et qu'ils n'ont pas pu mettre en place un gouvernement inclusif qui rassemble les Maliens. Assimi a la marge de manœuvre de mettre dans le camp du M5-RFP, du BNTM et de toute la classe politique de se mettre ensemble pour refaire ce pays-là. Et je pense que l'opportunité est là, sauver notre pays pour le bien de la nation malienne et même pour l'Afrique, parce que la paix au Mali constitue la paix dans toute l'Afrique.
C'était le docteur Aboubakar Sidiki Fomba, acteur politique et membre du Conseil national de la transition du Mali. Par ailleurs, l'Union nationale des travailleurs du Mali, faute d'interlocuteurs fiables, a suspendu sa deuxième grève d'une semaine. Conséquence, le travail reprend sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed Danyoko, notre correspondant à Bamako.
Cette décision de suspendre la grève est intervenue quelques heures après la décision prise par le vice-président de la transition, Assimi Goïta, de démettre de leur fonction le président de la transition, Bandaou, et le premier ministre, Mokhtar Wane. Pour expliquer cette décision, il a entre autres avancé la démission à reconduction unilatérale du premier ministre par Bandaou, une décision qui, selon Assimi Goïta, a eu pour conséquence de déclencher la grève de l'INTM, une grève qui asphyxie l'économie. Il faut noter que les banques, pour atténuer l'effet de la grève, avaient décidé, en milieu de semaine passée, d'assurer le service minimum. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
La Minute Éco, John Linden.
La Commission bancaire de l'Afrique centrale a donné son accord pour la création de la filiale camerounaise de la Banque nationale de Guinée équatoriale, dont l'inauguration est prévue en août 2021. L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Guinée équatoriale a par ailleurs entériné le projet d'extension de cette banque dans l'espace CEMAC. Le capital social de la nouvelle filiale s'élève à 10 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut conquérir le juteux marché américain de la noix de cajou en quintuplant d'ici 2025 sa capacité de décortiquage et en se mettant aux normes internationales. Le leader mondial de la noix de cajou ne transforme que 10% de sa récolte. Selon Adama Koulibaly, directeur du conseil coton Anacard de l'OPI, a transformé en 2020 seulement 12% des 848 000 tonnes de sa production. Le procureur de la capitale américaine, Washington, a lancé des poursuites mardi contre Amazon, accusé d'entrave à la concurrence dans le commerce en ligne. Il reproche aux géants du e-commerce d'empêcher les entreprises de vendre leurs produits moins chers ailleurs que sur sa plateforme. Le groupe de Seattle maximise ses profits aux dépens des vendeurs et des consommateurs, forcés de payer des prix artificiellement élevés tout en nuisant à la compétition et à l'innovation, souligne le procureur.
Merci John. Et maintenant le sport avec Yacouba Ouédraogo.
Début ce mercredi des quarts de finale de la Basketball Africa League qui se dispute à Kigali au Rwanda. Les redoutables Égyptiens du Zamalek, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule, feront face aux Camerounais de FAP repêchés en tant que meilleur troisième, puis place au choc entre les Marocains de l'AS Salé et les Angolais de Petro de Luanda, invaincus lors du premier tour. À quoi faut-il s'attendre lors de ces rencontres? Élément de réponse avec notre consultant en basketball, Eugène Pewa-Pelema, que nous avons joint dans le Maryland, ici aux États-Unis, via Skype.
Ces matchs-là, c'est les coachs qui font la différence. Parce qu'il faut tout le temps et sans cesse rappeler aux joueurs, les recadrer, les reconcentrer, afin de jouer sur les détails, les écrans en retard, par exemple, les rebonds, les passes, parce qu'il ne faut pas perdre le rythme du match, ne pas se précipiter. On peut aller vite, mais pas se précipiter. Donc, sur un plan intérieur-extérieur, ces deux équipes ont tous les moyens pour jouer l'une contre l'autre. Il faudrait remarquer que, par exemple, le Zamalek, leur poule était un peu plus faible que celle des forces armées police du Cameroun, qui ont joué contre Petro de Luanda et AS Salé, qui sont des équipes qui font partie des équipes favorites de ce tournoi. Ensuite, entre l'AS Salé et Petro de Luanda, ces deux équipes ont joué l'une contre l'autre déjà. Donc, elles se connaissent très bien. Le match a été pendant un moment dominé par l'AS Salé. Ils sont allés même amener jusqu'à 16 points. Et puis, il y a eu un relâchement et le Petro de Luanda a repris le devant mentalement, émotionnellement. Salé n'a pas pu tenir la route. Et ils ont perdu. Donc, ça peut être comme un match retour, une sorte de revanche.
Eugène Pewa-Pelema, consultant en basketball. Demain jeudi, la mission s'annonce compliquée pour les Sénégalais de l'AS Douane, eux aussi repêchés comme meilleur troisième devant l'US Monastir. Juste après, les Mozambicains de Ferroviaro de Maputo feront face aux hauts Rwandais du Patriot. Les deux demi-finales se joueront samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Football, finale de la Ligue Europa ce soir en Europe. Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly fait face à Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze. Les Red Devils rêvent de surmonter l'écueil sous-marin jaune et son timonier Unai Emery, spécialiste de la Ligue Europa à Gdańsk en Pologne, pour espérer redevenir maître de la Ligue Europa 4 ans après leur sacre de 2017. Pour cela, il faudra venir à bout de l'expérience L'expérimenté coach de Villarreal, Unai Emery, triple vainqueur de la Ligue Europa avec Séville en 2014, 2015 et 2016, et finaliste avec Arsenal en 2019. Les dernières confrontations entre les deux équipes remontent à 2008 et 2005 en phase de poule de la Ligue des Champions. Quatre matchs qui ont débouché sur un score de 0-0.
Merci, Yacoub.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par l'éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan est monté à 32 morts et entre 900 et 2500 habitations ont été détruites par les coulées de lave. De fortes secousses sont ressenties à Goma et au Rwanda. Eddy Issango a joint ce mardi à Goma, au Nord Kivu, le chef adjoint de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, Raphaël Thénault.
La coulée de lave qui a détruit au moins 900 habitations, si ce n'est plus, s'est arrêtée, mais cette destruction, évidemment, pèse très lourd dans les conséquences humanitaires de cette crise. Le CICR est engagé sur le terrain auprès des populations pour déterminer quelles sont les actions qu'il peut continuer de prendre. Nous avons déjà commencé à nous occuper de réunir certaines familles en collaboration avec la Croix-Rouge congolaise et commencer à faire des projets pour réhabiliter une station de pompage qui pourra, on l'espère, redonner de l'eau à une grande partie de la ville qui en est actuellement privée. Et nous continuons d'appuyer les centres de santé avec des médicaments et des soins chirurgicaux, de l'eau et de l'électricité pour les bâtiments. La situation des déplacés reste un problème en suspens. Beaucoup de gens sont toujours en déplacement du côté de Sake, à l'ouest de la ville. D'autres gens sont revenus pour trouver leur maison complètement détruite et ils regardent souvent la coulée de lave avec les yeux hagards et l'air désemparé. Et nous essayons de répondre à leurs besoins qui vont être les besoins en abri, en nourriture, en biens et essentiel de ménage, également en eau et en sanitation. Le problème principal reste le problème de l'eau potable et de la situation de ces déplacés. Un problème qui peut devenir un problème majeur dans les prochains jours si la route reste coupée, c'est le problème de l'alimentation en biens et en nourriture de la ville de Goma. Les secousses sismiques continuent de retentir et de faire trembler toute la ville avec une fréquence et une intensité accrue. Et nous vivons, nous, au Comité international de la Croix-Rouge, comme la population, dans la crainte des secousses sismiques et de leurs conséquences. Nous dormons dehors pour ne pas risquer d'être blessés ou tués par des éboulements de maisons ou d'immeubles. Et nous essayons quand même de répondre tant que faire se peut aux besoins de la population.
Beaucoup de gens meurent des inhalations. On a vu que même le gouvernement a relevé le nombre de morts à 31 hier. Aujourd'hui, où en est-on?
Aujourd'hui, le bilan est évidemment provisoire car dans une catastrophe comme celle-ci, c'est très difficile d'établir un bilan humanitaire précis. La lave a détruit beaucoup d'habitations et potentiellement touché des populations dont nous ignorons encore le sort. Les inhalations ont commencé à faire des victimes. Ce qui est important, c'est la prévention et la prise en charge. Le Comité international de la Croix-Rouge travaille main dans la main avec la Croix-Rouge congolaise pour prévenir les communautés, au sein des communautés, et pour appuyer également les centres de santé qui prennent en charge les malades.
Et qu'en est-il de gens qui ont perdu de maison?
Nous sommes en train, de façon conjointe, d'établir un programme pour les aider avec des abris d'urgence. Le programme n'a pas encore commencé, mais nous allons le commencer. Les familles qui ont perdu les liens avec leurs membres de famille peuvent se diriger vers le CICR ou vers la Croix-Rouge congolaise et appeler également la ligne qui a été établie pour justement les cas de recherche de parents, des recherches d'enfants.
Joint à Goma, au Nord Kivu, Raphaël Thénault, chef adjoint de délégation du CICR.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'éruption soudaine du Nyiragongo et la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Après un sommet de près de 20 ans, le volcan qui surplombe l'agglomération de Goma et le lac Kivu a craché sa lave sur la ville et provoqué plusieurs secousses sismiques causant des morts, d'importants dégâts matériels et une énorme psychose auprès de la population. Cette éruption du volcan Nyiragongo était-elle prévisible? Les gouvernements en Afrique consacrent-ils assez de moyens à la surveillance, la prévention et la gestion des catastrophes? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Au Nigeria, de nombreux groupes séparatistes ont émergé sur le socle des violences communautaires et de l'insécurité rampante. L'un des mouvements les plus en vue se fait appeler le peuple du Biafra, qui revendique l'indépendance de l'État du même nom, Biafra, qui a connu il y a 50 ans une guerre de sécession. Reportage de Timothy Obiezu, récit de Jean-Roger Bion.
Idéi Obasi, un septuagénaire vivant dans un quartier populaire d'Abuja, s'est forgé une réputation par la récollection et le partage de ses mémoires de la guerre du Biafra. Obasi n'avait que 20 ans en 1967, au début de la guerre, lorsqu'il fut recruté. Le conflit a duré 3 ans et les sécessionnistes biafrais ont été vaincus par les forces armées nigérianes. Beaucoup de ses compagnons d'armes ont perdu la vie. Le miraculeux qu'il est continue de soutenir la sécession, mais la guerre pour lui n'est plus une option.
Don't fight another war.
Plus de guerre, s'il vous plaît, parce qu'il n'y aura plus d'enfants. On peut arriver à l'indépendance par le dialogue et la paix.
En janvier dernier, les séparatistes de l'IPOB, l'acronyme anglais du mouvement du peuple du Biafra, a créé une branche armée. Son objectif était de combattre les éleveurs Peul, accusés d'être à l'origine des violences communautaires dans la région. Mais les autorités nigérianes y ont vu un acte de subversion et ont mis le mouvement sous les teignoirs. L'IPOB a été dissous et son leader Nnamdi Kanu banni. Pour l'analyste politique nigérien Djibrin Ibrahim, la prolifération des mouvements indépendantistes est une résultante de l'insécurité et de la marginalisation. Mais il considère la sécession au Nigeria comme une utopie.
It's legitimate for them to make demands for separation.
Il est légitime de demander la séparation, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il est difficile au Nigeria d'y arriver. Nous avons vécu ensemble depuis plus d'un siècle. Les populations ont conclu des mariages mixtes et elles se sont beaucoup mélangées en raison des migrations.
Ces derniers mois, c'est un groupe séparatiste Yoruba qui a vu le jour, appelant à la formation d'un État indépendant sous le nom de République d'Oduduwa, qui s'étendrait sur l'ensemble du sud-ouest du Nigeria, y compris Lagos, la capitale économique. Les observateurs prédisent une montée en puissance des mouvements indépendantistes à mesure que l'on approchera des élections générales de 2023. Mais ils soutiennent que le gouvernement nigérian sera peu enclin à céder à leurs desiderata.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le cadre de notre série sur le basketball africain, aujourd'hui le Tchad. La Fédération tchadienne de basketball éprouve d'énormes difficultés à relancer cette discipline, faute de moyens financiers. Conséquence, aucune équipe tchadienne ne participe au tournoi de Basketball Africa League qui se déroule ces jours-ci à Kigali, au Rwanda. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
L'équipe tchadienne de basketball qui a fait ses preuves dans les 3 dernières années a chuté par manque de championnat national dû à la crise sanitaire. La commune de N'Djamena, considérée plus ou moins comme la vitrine de cette discipline, compte à elle seule 8 clubs et 10 centres d'animation de basketball gérés par la Ligue. Mais par manque de moyens, la Ligue de basketball pour la commune de N'Djamena a suspendu le championnat depuis plus de 2 ans.
Lorsqu'il n'y a pas un championnat pour des joueurs de catégorie senior, les joueurs sont presque en vacances où chacun vient faire ce qu'il veut. Et là, c'est un danger que nous percevons déjà et jusqu'à quand cela va continuer.
Younous Ahmed, directeur technique de basketball, pour lui, les joueurs évoluent dans l'informel et donc à l'heure actuelle, il est difficile de juger leur niveau technique pour les engager à cette compétition.
Si nous avons un championnat, on allait suivre les clubs et voir quel est le club qui est champion en titre et attendre que celui-ci se prépare pour prendre part à ce genre de compétition. Et donc, nous sommes victimes, une fois, des conséquences des mauvaises organisations. Le championnat au niveau national est le tremplin de tout le niveau que nous recherchons. Et donc, c'est regrettable pour un joueur. C'est choquant, très choquant.
Les techniciens estiment que la Ligue de basketball pour la commune de N'Djamena ne peut engager les clubs dans un championnat dès lors que ces clubs n'ont pas de sponsors.
Si la Ligue décide d'organiser le championnat, il faut que les clubs aient les moyens pour payer les affiliations, les licences et tout ça qui va permettre à la Ligue de fonctionner. Malheureusement, les clubs même n'ont pas de sponsors.
Madibaye Kaya, entraîneur de basketball international niveau 2, bien qu'il ait été conçu consulté par les autorités en charge de cette discipline, il dit avoir contribué à sa manière. Il coordonne lui seul deux centres d'animation de basketball dans la commune du 9e arrondissement de N'Djamena, mais avec beaucoup de difficultés.
Nous sommes obligés d'engager les jeunes à cotiser eux-mêmes pour payer leur licence à 1000 francs. Et nous demandons au centre de payer une valeur de 40 000 francs d'affiliation. Il arrive des fois où nous sommes obligés d'engager les enfants à cotiser pour nous permettre de payer un ballon. Des fois, vous allez trouver des centres où il y a plus de 40-50 enfants et l'entraîneur n'a qu'une seule balle.
Rayam Abdoulaye est secrétaire général de la Fédération tchadienne de basketball, une instance organisatrice des activités de cette discipline, affirme à VOA Afrique que son institution n'a pas de moyens financiers pour jouer pleinement son rôle.
Le développement du sport à base, ce n'est pas l'apanage d'un individu, c'est d'abord l'affaire de l'État. Nous avons fait par 3 années consécutives des projets pour le championnat national. On vient en disant, attendez, on va voir ça. Mais on attend, on voit ça, ça veut dire qu'on remet à l'année prochaine. La deuxième année, c'est la même chose. La troisième année, c'est encore la même chose. Maintenant, on ne sait plus si on aura un championnat national ou pas. Et donc, le bal, c'est un manque à gagner. Le sport de haut niveau, c'est les moyens.
Joint par VOA Afrique, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Routouan Mohamed Ndonga Christian, ne souhaite pas se prononcer pour l'instant. André Godouma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Ici à Washington, le président Joe Biden a reçu ce mardi la famille de l'Africain-américain George Floyd, tué sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis il y a 1 an. La police est l'objet de critiques continues aux États-Unis et jusque-là, M. Biden n'a pas réussi, comme il l'espérait, à faire voter un texte contre les violences policières. Arzuma Compaoré a joint dans le Maryland Kadiatou Diallo, dont le fils Amadou Diallo, un jeune Guinéen de 23 ans, a été tué par des policiers en 1999 à New York.
Quand Amadou a été abattu, j'ai fait cette traversée de l'Afrique et je suis venue aux États-Unis. Et j'ai décidé de rester et de militer. D'abord, mon combat au début, c'était de rendre à mon fils son histoire. La manière dont la presse était en train de parler de lui, ça m'a révoltée. Donc, j'ai tout fait pour passer ce message parce que c'était un jeune étudiant qui est venu ici à New York City et qui travaillait fort et qui économisait son argent. Il voulait être indépendant et payer ses études universitaires. Donc, j'ai réussi à le faire. Malheureusement, pendant le procès, on n'a pas eu justice. Mais j'étais encouragée par le mouvement de tout le monde parce que ça a galvanisé tout le monde pour demander un changement. Aujourd'hui, quand il y a un incident, justement, les gens sont équipés par leurs petits appareils et ils documentent et ils montrent à tout le monde entier ce qui s'est passé. J'ai dit que Amadou c'est le catalyseur de ce mouvement. Mais George Floyd a vraiment ouvert la porte large pour changer le monde. Mais ce gap-là entre Amadou et George Floyd, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers et des milliers de personnes ont été abattues. Ça fait 22 ans, 23 ans bientôt, et je continue de voir la même chose. À chaque fois qu'il y a une tragédie, qu'il y a une bavure policière, ça ouvre mes plaies. Donc, c'était cette blessure qui ne se cicatrise jamais. On est fatigué, on est stressé et il faut que ça change.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président Joe Biden?
En tant que maire de Amadou Diallo et la fondatrice de la fondation Amadou Diallo, nous attendons à ce que cette loi qui est en train d'être débattue au Congrès, que ça soit une loi forte. Nous demandons à ce qu'on élimine le qualified immunity. Je ne sais pas comment le dire en français, parce qu'à chaque fois qu'il y a un policier qui abat un innocent ou une innocente, il y a cette couverture qui les protège. Donc ça, nous demandons à ce que ça soit inclus dans cette loi qu'ils sont en train de faire passer. Nous, les parents et les militants, nous jouons nos rôles tout le temps. Il faut que tous les acteurs dans ce mouvement-là soient unis et que ça prospère. Sinon, nous allons continuer de voir la même chose. Sans pression, rien ne va changer. Et cette pression, ça doit être sur le plan politique et sur le plan économique, justement.
Jointe dans le Maryland, Kadiatou Diallo, mère d'Amadou Diallo, un jeune Guinéen, tué en 1999 par des policiers à New York. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.